Une vie, une œuvre. Bonjour à toutes et à tous. Malcolm McLaren, 1946-2010. Aujourd'hui, Une vie, une œuvre dégage un parfum de scandale et de bière éventée et l'odeur de quelques billets poisseux à l'effigie de sa glorieuse majesté. Aujourd'hui, Une vie, une œuvre résonne de Larsen, de riffs de guitare Destroy et de la voix en lambeaux de Johnny Rotten. Aujourd'hui, Une vie, une œuvre vous invite à la rencontre de Malcolm McLaren, le camelot du rock, le grand tisonnier de la musique du diable made in UK, un tordu à la voix d'aristocrate qui avait toujours plusieurs fers au feu, un esthète qui vendit des épingles à nourrice au prix des joyaux de la couronne et qui fit le succès des Sex Pistols, à défaut de faire leur fortune. Place donc au disciple peut-être le plus décadent de Guy Debord dans un documentaire de Virginie Bloch l'aîné et Lionel Quentin.
Malcolm McLaren, 1946-2010.
I don't play any instruments and I don't sing.
No.
But for some reason or another, I went through the wrong door and that's the job I have. I make lots of coffee when I make records and I'm just about being there, doing whatever it is and inspiring people to sort of come up with good ideas. I'm a musical retard, really.
Je ne joue d'aucun instrument, je ne chante pas, mais pour une raison qui m'échappe, je suis rentré par la mauvaise porte et c'est le job que j'ai maintenant. Je fais beaucoup de café quand je fais des disques, je suis simplement là et j'inspire les gens de façon à ce qu'ils aient de bonnes idées. Musicalement, je suis un attardé.
Ça fait du son, l'échelle.
Bruno Blum, le vétéran du punk, monte sur son étagère à 4 mètres de haut pour ressortir ses pochettes de disques originales.
Holidays in the Sun, Sex Pistols. Il y a eu un scandale avec ça parce qu'ils avaient découpé la bande dessinée publicitaire d'une publicité pour les vacances au soleil. Et ils avaient changé les paroles, quoi.
D'accord.
Et ils avaient eu un procès de l'agence qui organisait les voyages, etc. Mmh. C'était un scandale supplémentaire.
Et les paroles, c'est
Et les paroles, c'est « je ne veux pas de vacances au soleil, je veux aller au nouveau Belzen, au camp. » New York, des Sex Pistols, Submission, morceau sur la soumission, les Rots, fantastique groupe, et les Damned. Et ben, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, on m'a volé le 45 tours Anarchy in the UK des Sex Pistols avec la pochette noire originale, à moins qu'elle soit encore à sa place. Oh, j'en sais rien, je veux accuser personne. Ou alors c'est peut-être que je ne l'ai pas rangé ou je sais pas quoi. Mais... Ah bah voilà, ceux qui n'ont pas été utilisés pour l'expo. Bah le voilà. Donc j'ai bien fait de ne pas dire de mal. Voilà, Anarchy in the UK. Alors ça, c'était une pochette noire sur EMI. Et qui a été retiré de la vente la semaine de sa sortie.
Et la pochette noire, c'était la condition pour sortir le disque ?
Je ne sais pas, c'était le design du disque.
Ah d'accord.
Tel qu'il voulait le sortir. Et puis EMI a sorti ça parce qu'il y avait des gens qui disaient mais non, les Sex Pistols, c'est des mauvais garçons, tout ça, ils vont faire du scandale. Il y a eu un scandale à la télé, c'est même arrivé après. C'est arrivé à ce moment-là, quoi. Donc il y a eu, je pense qu'ils ont retiré le disque de la vente parce qu'il y a eu le scandale à la télé avec Bill Grundy où ils ont dit... Il a été un gros con, je sais pas quoi. C'est ça qui s'est passé. Non, c'était rigolo. Ce qui est fou, c'est que des gamins comme ça, qui étaient des petits zonards, et qui. Enfin, je pense qu'ils n'avaient pas vraiment beaucoup plus d'importance que ça, tout à coup, soit devenu une affaire d'État, quoi. Parce que c'est ce que les Sex Pistols étaient devenus. Le scandale des Sex Pistols a retourné complètement le monde du rock. Tout le showbiz a été retourné complètement par ça. Après, tous les managers cherchaient un groupe punk, c'était la mode. Donc les maisons de disques voulaient ça, puis ils n'étaient pas d'accord parce qu'ils détestaient tous les punks, mais il fallait bien quand même bouffer, donc il fallait faire un groupe punk, donc ils cherchaient des groupes punk, mais pas trop punk quand même. Donc c'était marrant parce qu'on voyait tout ça et c'était en train de se passer et puis ils n'ont pas trouvé. Et puis après, bon, bah, le rock est mort, quoi. C'est ça qui s'est passé. Il y a eu des soubresauts, il y a eu Nirvana après, il y a eu tout ce que vous voulez. Mais c'est fini depuis. Le rock, c'est comme la peinture impressionniste, c'est pas extensible.
And whatever you said and whatever you did in your shop, it was always about being an anti-shop, anti-sex, anti-everything, anti-fashion, and anti-commercial.
J'ai rencontré Malcolm, je crois, en 72. J'étais parti flâner à Londres.
Jean-Charles de Castelbajac.
Et j'allais tout le temps à King's Road, j'allais tout le temps dans des endroits un petit peu comme le East End. Et sur King's Road, j'ai découvert une nouvelle boutique, un nouveau lieu particulier où le plancher était en pente pour se casser la figure. Il y avait une horloge qui tournait à l'envers. Il y avait des t-shirts avec des os de poulet qui racontaient des mots. Ça m'a troublé, ça m'a plu, ça m'a interpellé. Moi, à l'époque, j'avais une démarche assez situationniste. Je faisais des vêtements en bande velpo, en serpillière. J'étais différent. Et là, soudain, j'ai senti une espèce de complicité spirituelle avec le travail de deux artistes qui étaient Vivienne Westwood et Malcolm. Donc, j'ai laissé un petit mot en disant « I think we belong to the same family. Can you call me when you come to Paris ?» Et trois jours plus tard, on frappait à ma porte au 37 rue de Trévise. Et il y avait cette espèce de jeune homme avec des cheveux bouclés. Je me souviendrai toute ma vie, il avait un magnum de Johnny Walker qui avait la couleur de ses cheveux. Et il est rentré dans ce grand appartement vide que j'avais à l'époque. Et il a dit, ça sera parfait pour accueillir les New York Dolls. Et moi, les New York Dolls, c'était vraiment un groupe mythique. À l'époque, j'habillais un groupe qui s'appelait les Frenchies avec Jean-Marie Poiret. Et ça n'a pas manqué. Quelques semaines plus tard, les Dolls étaient à Paris. Effectivement, ils n'ont dormi qu'une soirée chez moi. Mais voilà, notre amitié a commencé comme ça.
It's only unpopular ideas that are capable of slowly gleaning a few
Vivienne Westwood
disciples until the end, till in the end they it's possible for them to have an effect because they are original.
McLaren faisait partie de East End of London.
Andrew Hussey.
Un petit peu, comment le dire, ni classe ouvrière, ni bourgeoire. Moi, je pense à Céline, les petits bourgeoirs dans Morte à Crédit, dans Voyage au bout de la nuit, un petit peu déclassé, si vous voulez. Et je crois que, aussi, un côté, dans un milieu juif aussi, qui lui donnait une sens de révolte qui ne correspondait pas aux lignes générales de la politique en Angleterre. Et moi, je vois quelque chose toujours archaïque chez Malcolm McLaren, quelque chose du 19e siècle. Il m'a fait toujours penser à un personnage de Dickens. Dickens a créé des personnages qui étaient plus larges que la vie, on dit ça en anglais. They were larger than life. Presque une caricature du petit bandit de la rue, the Artful Dodger, quelqu'un, petit gamin qui cherchait à faire des astuces un petit peu partout.
McLaren, c'est un produit d'une famille complètement dysfonctionnelle.
Bruno Blum.
Donc lui-même était un tordu, quoi, comme Johnny Rotten.
Mais pas autodestructeur.
Et, par contre, il était...
Destructeur.
Il avait une vision qui était nourrie de situationnisme de Guy Debord, hein, qui était une attitude de révolutionnaire dans ce que ça a de plus pur, c'est-à-dire complètement inconscient. Et de complètement candide et dénué de recherche d'intérêt ou de recherche de pouvoir. C'est un anarchiste, c'était quelqu'un qui voulait foutre le bordel et qui avait décidé de faire ça parce que c'était dans l'air du temps. Lui, c'était en fait un produit de mai 68. Il a été quelqu'un qui a été marqué par mai 68, pour faire court. Et mai 68 et les punks, c'est la même histoire.
Il avait 20 ans en 68.
Voilà, donc ouais. C'est le même truc, c'était un truc rebelle.
Toutes ces formes particulières, information ou propagande, publicité ou consommation directe de divertissement, le spectacle constitue le modèle présent de la vie socialement dominante.
Que ce soit 68 ou les Rolling Stones avec Street Fighting Man ou les Sex Pistols, en gros, c'est la même chose. Sauf que là, on n'était plus avec un Mick Jagger qui avait fait la London School of Economics, on était avec des gamins qui étaient vraiment prêts à tout, quoi, pour tout casser. Et McLaren s'inscrivait là-dedans. Bon, alors, il se trouve qu'il avait été un marchand de fringues et que c'était son boulot et qu'il faisait un magasin avec lequel il essayait de faire des trucs qui faisaient flipper tout le monde. Jusque-là, comme il était un grand fan de la musique des années 50, il vendait des costumes que portaient les Noirs. Parce qu'il faut bien sûr rappeler l'histoire des Noirs, c'est eux le rock. Et McLaren était quelqu'un qui appréciait véritablement le vrai rock. On n'est pas en train de parler des gens qui ont copié le rock des Noirs, qui sont Elvis Presley, qui l'a très bien fait d'ailleurs, ou les Beatles, ou qui vous voulez. Mais le véritable rock'n'roll, c'est la tradition de Little Richard, de Chuck Berry, et puis des moins connus comme Tiny Bradshaw ou comme Hal Singer, qui a écrit Rock Around the Clock en 1950, des années avant Bill Haley. Donc tout ça, c'était des gens qui portaient des fringues très particulières, que les jazzmen portaient aussi d'ailleurs. C'était les fringues que portaient les Noirs, c'est des costumes trop grands, pantalons extrêmement larges, et bon, tout un attirail qu'on appelle les Zoot Suits. Et McLaren vendait des Zoot Suits aux Teddy Boys anglais, qui s'habillaient en fait comme les Noirs, sans vraiment le savoir. Mais McLaren, lui, était beaucoup plus puriste que ça. Et il a voulu ensuite, avec son magasin de fringues, créer un événement, on va dire médiatique, comme on dit aujourd'hui, en vendant brusquement des choses qui étaient choquantes.
Les trucs que Vif dessinait à l'époque n'étaient pas précisément faits pour durer. Les boutons sautaient. Ils volaient à l'autre bout de la pièce comme s'ils étaient allergiques à vous. Les cols de ces t-shirts vous pendaient entre les seins après le premier lavage à cause de leur coupe. Du coup, un beau t-shirt moulon finissait en soutien-gorge pour mec. J'utilisais déjà des épingles à nouilles avant les Pistols. Mais là, elles avaient vraiment fait leur grande entrée en scène. Elles étaient là, au cas où, comme une trousse à outils d'urgence pour les fois où les fringues de Viv partaient en lambeaux. John Lydon.
Par la suite, il va vendre des fringues à Sadomaso, quand son magasin est devenu sexe. Et avec les Sex Pistols, d'une manière générale, il essayait de choquer, quoi. Donc c'était il vendait des bandage suits, c'est-à-dire des pantalons de bandage, comme on dit en français, c'est quand on est attaché. Quand on est attaché pour les orgies, donc c'était des pantalons, on se baladait, il y avait des sangles qui empêchaient de marcher, il y avait les jambes, on pouvait pas marcher normalement, quoi. Et puis bon, tous les punks, après par la suite, ils ont acheté ces trucs-là, qui étaient un peu grotesques puisqu'on pouvait pas marcher, ça gênait pour marcher. Et il y avait des tas de trucs comme ça, super bizarres, qui étaient liés à l'imagerie sadomasochiste. Et il a été encore plus loin que ça. Il a été jusqu'à se servir des symboles nazis. Il a été, enfin, tout était bon pour choquer, quoi. Et c'était une manière délibérée de faire outrage aux bonnes mœurs. Et pour vendre son truc, il s'est dit, je vais prendre des gamins qui sont vraiment des barges rebelles des rues. Et plus ils seront destroy, et plus ce sera n'importe quoi, plus ils vont créer le scandale, et plus ça va me faire de pub. Mais je ne pense pas que ça se limite simplement à l'idée de vouloir vendre des fringues. C'était tout à fait l'esprit anard de l'époque. Et, alors il a engagé, effectivement, des gens qui étaient des petits délinquants. Steve Jones, qui était guitariste, bah, lui, il avait réussi à avoir une guitare, une super Gibson, parce qu'ils avaient braqué le camion de David Bowie, dont il était fan. Bon, c'était des petits délinquants comme ça, des petits dealers, des petites frappes, qui étaient quand même pas des gens très intéressants. Et Steve Jones, d'ailleurs, il devait être chanteur du groupe. Il voulait être chanteur du groupe, mais il était trop nul, il n'arrivait pas à chanter. Il n'arrivait pas à jouer la guitare non plus, d'ailleurs. Enfin, c'était vraiment mauvais, quoi. Et puis, ils ont pris quand même un musicien qui n'était pas tellement un rebelle et qui était, disons, le musicien du groupe pour quand même fallait écrire des chansons. Donc, ils ont pris Glenn Matlock, qui était à la basse. Et puis, ils ont cherché tout un tas de chanteurs. Parmi les chanteurs, il y a eu la chanteuse aujourd'hui des Pretenders, il y a eu Nick Kent et tout un tas de gens pas très recommandables qui ramassaient comme ça et ils cherchaient celui qui allait être le plus provocant. Et il est tombé sur Johnny Rotten qui se baladait avec un t-shirt « Je déteste Pink Floyd » dans la rue à King's Road.
Pourquoi Malcolm McLaren a compris alors, qu'il fallait ça, que c'était un homme comme Johnny Rotten.
Non mais Malcolm McLaren est un vieux rocker. Alors ça, c'est un concept très difficile à expliquer, mais c'est un fan de rockabilly.
Philippe Manœuvre.
La première fois où on voit Malcolm McLaren apparaître, c'est dans un film qui s'appelle The London Rock'n'Roll Show. C'est dans le stade de Wembley, il y a Chuck Berry, Bo Diddley, Matchbox, des groupes anglais, des groupes, puis les derniers pionniers. Voilà. À l'époque, ça faisait fureur. Et dans le film qui relate cet événement, il y a un stand à t-shirt et c'est Malcolm qui est debout derrière un stand à t-shirt en disant « Come on, mate, have a bob, try it, two quids. » Pour essayer de vendre ses t-shirts. Okay. C'est un camelot. Bon, après, ça, c'est en 73. Après, en 74, il va aux États-Unis et il s'occupe des New York Dolls. Donc là, il commence à comprendre qu'un groupe, c'est comment ça fonctionne un groupe. Il a des idées. Il va les habiller en rouge communiste, ce qui, aux États-Unis, ne va pas vraiment passer, ça ne va pas plaire. Ça sera une catastrophe, mais il revient à New York avec eux, le groupe explose, et il commence à rencontrer des gens comme Richard Hell, qui sont les premiers punks américains, même si ça n'a pas de nom, le mouvement n'a pas de nom, mais il rencontre ce Richard Hell qui se raccommode ses t-shirts avec des épingles à nourrice. Donc il voit ça. Il rentre à Londres, la boutique de t-shirts rock'n'roll est devenue une petite boutique dans King's Road, ma foi. Mais ils sont vraiment dans le mauvais coin de King's Road, ils ne sont pas dans le coin gentrifié, ils sont vraiment au bout de King's Road. D'ailleurs, ça s'appelle End of the World, c'est une boutique de vraiment, c'est la fin de King's Road.
God save the Queen, a fascist regime, it made you a moron, a potential H-bomb. Dieu sauve la reine et son régime fasciste. Qui vous a rendu un crétin, une bombe atomique potentielle. God save the Queen, she ain't no human being, there's no future in England's dreaming. Dieu sauve la reine, ce n'est pas un être humain, il n'y a pas d'avenir dans les rêves d'Angleterre. God save the Queen, we mean it, man, Dieu sauve la reine, ah oui, on l'aime, no future for me, no future for you. Est-ce que je peux dire que, malgré ma traduction un peu approximative, après à peu près 40 ans, c'est toujours puissant tout ça. Est-ce que ça a marché en français comme traduction ?
Est-ce qu'il était contre la reine d'Angleterre ?
Vous savez,
est-ce qu'il était anarchiste ?
C'est le mystère Malcolm. Hein. Malcolm était à la fois fasciné par les destinées, par les institutions, et à la fois il était là pour les détruire. Et il faisait tout ça, toutes ces choses qui étaient contradictoires, avec une réelle, réelle sincérité. Donc dire qui était Malcolm, même après 40 ans d'amitié, qu'il a été le parrain de mon fils et tout, je n'ai pas toutes les réponses. Et très étrangement, dans notre amitié, il y a aussi un chemin de cadeaux. Malcolm m'a fait des cadeaux tout à fait étonnants dans ma vie. Par exemple, il y a un cadeau que je n'ai pas pu accepter parce qu'il avait une fascination pour ce personnage qui était Aleister Crowley, qui était un mage dont le manoir a été, après sa mort, beaucoup plus tard vendu à Jimmy Page. C'est l'endroit où est mort aussi John Bonham, le batteur de Led Zeppelin. Et Malcolm avait toujours, et moi j'avais cette dimension chrétienne, habitée par la foi, avec mes convictions, voilà. Et lui, la phrase de mon père d'ailleurs m'a servi à l'époque, parce que mon père disait toujours le diable n'est pas un ennemi, c'est un adversaire qui va t'élever l'esprit. Hein? Et Malcolm avait toujours cette bague avec pentagonale où il y avait tous les signes kabbalistiques, voilà. Alors ça, c'était le premier cadeau qu'il m'a fait, mais mes doigts étant trop larges, j'ai jamais pu la mettre. Et c'était tant mieux ainsi. Mais tous les cadeaux de Malcolm, je les ai revus récemment, étaient des gestes d'une telle délicatesse, d'une telle complexité délicate. Voilà.
Les Sex Pistols furent une arnaque, une dernière enchère au scandale, du cash contre du chaos, comme disait un des slogans de Malcolm McLaren. Ils furent aussi une preuve soigneusement fabriquée que l'ensemble des idées culturelles reçues, qui voudraient expliquer à tout prix comment le monde est censé tourner, recèlent une fraude si complète et si vénale qu'elle exige d'être détruite, éradiquée de la mémoire du monde. Sur ses cendres, n'importe quoi serait possible et permis. L'amour le plus profond, le crime le plus gratuit. Grill Marcus.
The Sex Pistols, par hasard, c'était un très bon groupe de hard rock influencé par The Small Faces, The Who et la musique en colère des années 60. Ils n'étaient pas très doués comme musiciens. Et, mais sans McLaren, mon avis, c'est que The Sex Pistols auraient été ce qu'on appelle en anglais pub rock. Des joueurs dans les pubs, un peu du style de l'époque, Dr. Feelgood, je ne sais pas quoi. Ce que McLaren avait donné aux Sex Pistols, c'était une théorie, et la théorie, c'était situationniste. Pure et dure, c'était de créer le négatif, de créer un boy band à la négative, qui était complètement à l'envers de ce qu'on entendait d'un groupe de rock. Donc tous les incidents, ils semaient la pagaille, avec cracher sur les journalistes et des gros mots à la télévision. C'était fait des fois par hasard, mais fois exprès, justement pour faire un défi à la société britannique. Quelqu'un que j'admire beaucoup, et j'ai lu après, c'est Georges Bataille, qui parle de la beauté du négatif. Et je crois qu'avec les Sex Pistols, c'est ça, c'est une dialectique. Et les Sex Pistols, c'est le côté négatif de cette dialectique.
Malcolm a commencé à louer un bureau à côté de Oxford Street. Il y avait deux pièces et il s'enfermait toujours dans celle du fond. Qu'est-ce qui se passe, Sophie? Je sais pas, il s'est encore enfermé. La plus grosse dépense pour ce bureau, à part l'installation du téléphone, la table et le fauteuil, c'était les serrures de sécurité que Malcolm avait fait installer pour s'assurer qu'on n'entrerait pas par effraction. Au final, c'était un autiste. Ça n'a fait que créer des divisions entre nous. John Lydon.
Alors, l'histoire des Pistols, c'est que Johnny Rotten accepte d'être engagé par le groupe, par Malcolm McLaren, en se disant, tiens, je vais me marrer un peu. Enfin, il prend pas ça très au sérieux. Ouais, on va foutre le bordel avec les copains et tout, avoir de la bière gratos. Enfin, c'était un peu ça, l'idée. Et puis, il a fallu écrire des chansons. Et il a commencé à écrire... Submission, qui était une chanson sur la soumission sadomaso, mais avec bien sûr des relents anti-système, etc. Et puis ils ont enregistré, enfin je ne sais pas quelle est la première qu'ils ont enregistrée, mais ils ont fait quelques maquettes avec toutes les chansons de leur album. Bon, il y a je crois 12 chansons sur leur album, même pas. Ils n'en ont jamais fait plus. Mais la première qui a été véritablement enregistrée, c'était Anarchy in the UK. Je suis un anarchiste, je suis un antéchrist, je ne sais pas ce que je veux, mais je sais comment je vais l'obtenir, je vais détruire. Anarchy in the UK, qui est sorti en 1976 et qui a été immédiatement retiré de la vente par les disques EMI, parce que c'était considéré comme un truc outrage, etc. Donc, pochette noire, 45 tours aujourd'hui, qui est une super pièce de collection, et... Je pense que c'était véritablement un manifeste anarchiste, authentique. Et ça n'a... le fait qu'un disque soit censuré était un scandale en soi. Donc tout à coup, du jour au lendemain, les mômes qui, comme moi, se foutaient un peu des Sex Pistols, tout à coup se disent « Quoi, ces groupes-là est interdit ?» Et en plus, il y a un scandale à la télé. Et du coup, toute la jeunesse s'est dit « On est de leur côté, quoi. » Quoi qu'ils puissent dire.
Ok. I am an antichrist. I am an anarchist. Don't know what I want, but I know how to get it. I want to destroy passers-by. Je suis un antichrist. Je suis un anarchiste. Je sais pas ce que je veux, mais je sais comment l'avoir. Je veux tuer les passants. I want to be anarchy. No dog's body. Je veux être l'anarchie. Je travaille pour personne. Anarchy in the UK. It's coming sometime. And maybe... I give a wrong time, stop a traffic line. Your future dream is a shopping scheme. L'anarchie pour le Royaume-Uni, ça viendra très tôt. Et peut-être je vais arrêter le trafic. Mais vos rêves de l'avenir, c'est juste un centre commercial. Moi, je veux être l'anarchie dans la ville. I want to be anarchy in the city. Ça, c'est ma ligne préférée. Get pissed, destroy. Brève, détruisez.
Oh yes, they really turn us on.
What do they do?
Well, suppose they turn other people on.
That's just their tough trick.
It's what?
Nothing, a rude word. Next question.
No, no, what was the rude word?
Shit.
Le premier gros coup des Sex Pistols, c'est quand ils font un gros scandale, un énorme scandale à la télévision anglaise, chez Bill Grundy. Et c'est pas organisé par Malcolm, c'est que l'après-midi, Queen devait aller faire cette émission, Freddie Mercury peut pas chanter, il a mal à la gorge, il annule. Bon, chez EMI, ils sont embêtés, ils peuvent pas, c'est la télé quand même, à 19h, faut qu'il y ait quelqu'un. Et ils viennent de signer les Sex Pistols, allons-y avec les Sex Pistols. Le type de la télé a fait son boulot, il amène un groupe, et Malcolm est même pas là dans toute cette histoire. Il est même pas là, il a pas, il y a Siouxsie, il y a les Pistols, et il y a Billy Grundy, et Malcolm n'est pas là du tout. Alors après, il y aura une fureur. Il y a un Anglais qui a tiré sur sa télévision avec une carabine. Il y en a un autre qui a jeté sa télé par la fenêtre. Mais dans le pays de la BBC, ça, c'est des trucs incroyables. On ne disait pas « what a rotten fucker » au présentateur à 19h avec les enfants qui écoutent. Il y a des mots qu'on ne prononce pas à la télévision anglaise en 1976-17. Quoi, voilà. Et les Sex Pistols font leur boulot de jeunes groupes d'une génération. Quoi. Ils arrivent en faisant « fuck you », « fuck you », mais comme ça, à l'anglaise. Et voilà,
avec les doigts levés.
Voilà, avec les deux doigts. Et Malcolm a géré tout ça, cette folie. Après,
est-ce que Malcolm McLaren donne des instructions sur les paroles? Ou est-ce que les Sex Pistols et Johnny Rotten se débrouillent très bien tout seuls pour choquer?
Je pense que McLaren avait certainement des suggestions à leur faire. D'abord, il leur donnait des fringues.
Il leur vendait. Johnny Rotten dit que jamais rien n'était gratuit et que ce n'était pas parce qu'ils étaient les Sex Pistols que Vivienne Westwood leur donnait gratuitement les habits.
Alors, Johnny Rotten déteste McLaren. Mm. Et c'est vrai qu'il y a eu une lutte entre les deux pour le pouvoir artistique. Et incontestablement, Johnny Rotten est celui qui écrivait les paroles. Incontestablement, c'est lui qui avait les idées. Incontestablement, c'est lui qui a complètement bouleversé le rock et l'histoire du rock tout court.
Et donc Malcolm McLaren, il apportait quoi ?
McLaren a été celui qui l'a soutenu et qui a permis d'obtenir les financements nécessaires à lancer l'histoire. Et il a eu sa part de création, évidemment. Et notamment du fait qu'il ait été un terrain propice à vouloir diffuser un scandale.
Donc Malcolm arrive à Paris en 76 avec ses joyeux Sex Pistols pour le concert au Chalet du Lac. Et là, moi, Patrick Odlin traîne beaucoup avec Siouxsie, Billy Idol, toute la bande qui est autour des Pistols, qu'on appelait le Bromley Contingent. Voilà. Et on voit que les Anglais sont déjà passés à une étape supérieure parce qu'ils se baladent dans la rue avec Siouxsie, elle a pas de soutien-gorge, elle a un t-shirt avec deux trous et les seins qui sortent et dessus elle met un truc un imperméable en plastique transparent et elle a un brassard à croix gammée. Donc, ça, boulevard Beaumarchais, ça passe pas quoi. Il y a des gens qui disent mais c'est la croix gammée. Enfin,
et Malcolm McLaren, il avait sur lui des insignes nazis. Non,
pas du tout.
C'était pour.
Pas du tout. Alors là, il laissait les gamins vivre leur vie et lui, il disparaissait régulièrement parce qu'en fait, lui, il avait déjà d'autres amis comme son copain Jean-Charles de Castelbajac. Il connaissait déjà un autre monde. Voilà, et c'est ça qui est étonnant avec Malcolm, c'est qu'il arrivait à passer d'un monde à l'autre. Je pense que si vous allez voir Jean-Charles de Castelbajac, il peut vous en parler 5 heures, mais il va vous raconter totalement autre chose, parce que Malcolm était comme un caméléon qui savait exactement s'adapter, quoi dire, quoi faire. Enfin voilà, c'était un mauvais manipulateur. Après, bon, clairement, tout le monde s'est laissé emporter par le tourbillon punk. C'est devenu un panier de crabes incroyable à Londres. Et bon, il avait fait des trucs peu ragoûtants. C'est sûr qu'il a dit assez vicieuse d'aller taper Nick Kent à coups de chaîne à vélo dans un club. Lui, il était derrière, mais évidemment, lui, il voyait la promotion du groupe. Voilà, ça va faire une grosse promo. Le rock critique numéro un tabassé par le bassiste des Sex Pistols, voilà, qui allait relancer parce que il avait un côté comme ça. Il faisait le métier bien à 111%.
Avec des coups.
Ouais, il faisait ça. Voilà, il marchait par. La réalité a fait que les coups sont venus tout seuls, en fait. Voilà. À un moment, c'était la phrase de Cocteau, voilà, puisqu'on ne comprend absolument rien à tout ce bordel, faisons semblant d'en être le manager. Ça aurait pu être ça, la phrase de Malcolm.
Alors, ils avaient obtenu une avance importante des disques EMI, qui à l'époque, c'était l'époque où les musiciens n'étaient pas volés sur Internet comme aujourd'hui, donc ils pouvaient commercialiser leur travail. Donc, à l'époque, les maisons de disques, qui vendaient beaucoup de disques, donnaient de l'argent aux musiciens en avance. Et donc ils sont partis avec une confortable avance qui leur a permis d'acheter du matos, de s'organiser mieux, de monter des bureaux, de monter une boîte, etc. Tout était au nom de Malcolm McLaren, qui a pris systématiquement tout le fric.
Qui n'a rien donné.
Et qui, il donnait un petit salaire aux musiciens, comme si c'était les vendeurs du magasin, et parfois ils l'étaient. Ils venaient bosser au magasin, enfin c'était une petite histoire comme ça, une petite entreprise de famille, quoi. Et puis, il s'est dit, super, on va aller voir une autre maison de disques et on va obtenir une autre avance. Et on va l'en prendre. À l'époque, c'était des sommes très importantes. Hein. C'était 80 millions de francs. Je ne sais pas ce que ça fait en euros, mais enfin, c'est 10 millions d'euros, on prenait, hein, à l'époque. Et ils ont fait pareil avec les disques AEM. Et ils leur ont livré une chanson. Donc, ils ont enregistré God Save the Queen, Dieu sauve la reine. Donc, God Save the Queen, bien sûr, c'est l'hymne national anglais qu'ils ont détourné, comme Hendrix avait fait auparavant avec l'hymne national américain. C'était vraiment des insultes directes à la reine d'Angleterre. Personne n'osait faire ça en Angleterre. Donc AEM a fabriqué le disque, et avant même de le sortir, ils ont décidé de le retirer de la vente une nouvelle fois. Et ils ont viré les Pistols, qui venait dégueuler dans les bureaux et tout, enfin, qui venait faire ça.
Et Malcolm McLaren a gardé l'avance.
Bien sûr. Donc, tout à coup, il se retrouve à la tête d'une fortune, et il se dit, OK, maison de disques suivante. Et ils vont voir les disques Virgin, qui était à l'époque une petite boîte, qui était Richard Branson, à l'époque, avait fait fortune avec la bande du film L'Exorciste, de Michael Field, et il essayait de signer un groupe vraiment important. Et les négociations ont commencé, et finalement, ce sera Virgin qui sortira, je crois que c'était au printemps 77, qui sortira juste avant la célébration des 25 ans du couronnement de la reine d'Angleterre, qui était une grande histoire là-bas, parce qu'ils faisaient des défilés dans Londres, la reine sortait de son palais avec ses chevaux, son carrosse, tout le bordel, et il y avait des tasses, des posters partout, c'était la grande affaire. Tous les Anglais étaient là avec leurs petits drapeaux et tout. Et le jour des célébrations et de l'inauguration de la nouvelle ligne de métro, la Jubilee Line, c'était le jubilé, le Silver Jubilee, le jubilé d'argent, 25 ans, la ligne de métro qui s'appelle toujours la Jubilee Line, c'était le jour où ils ont sorti le disque, quoi.
My Lord Mayor, when I was 21, I pledged my life to the service of our people. And I ask for God's help to make good that vow.
C'était un intellectuel, c'était un homme d'affaires.
Alors, un intellectuel, un homme d'affaires très mauvais, pathétique, il a ruiné le groupe, il s'est ruiné, il n'a jamais... Enfin, bon, voilà.
Il s'est ruiné.
Bon, moi, franchement, non, enfin, il n'avait pas un sou, quoi. Enfin, voilà, ça se voyait, je ne sais pas ce qu'il avait fait, mais clairement, ce n'était pas un homme d'affaires. Il n'est pas mort riche, il n'a pas laissé des milliards, enfin, voilà, dans toutes les grosses fortunes du rock, non. Un intellectuel, certainement, quelqu'un de curieux, qui il pouvait venir chez vous, il regardait votre bibliothèque, et avant de partir, il disait, bon, toi, t'as pas lu ça et ça, et vous indiquait les deux bouquins qui vous manquaient. C'était assez étonnant. C'était toujours des livres intéressants, Moi, il m'avait dit de lire Ma vie secrète, qui était un livre très sexuel écrit par un anonyme au 18e siècle, je crois, qui racontait qu'un bourgeois de Paris qui sortait de Londres. Oui, c'est ça, Ma vie secrète.
Alors, en fin 77, comme ils n'arrivent pas à jouer en Angleterre, ils partent faire une tournée américaine où ils vont ramasser des dollars. Et bon, les gens sont déçus parce qu'ils ne sont pas extraordinairement bons sur scène comme les Américains le sont habituellement, super rodés, super bons. Donc ils arrivent, c'est le bordel, c'est n'importe quoi. Sid, ils se coupent le bide avec des lames de rasoir, il y a du sang partout. Enfin, les gens ne comprennent pas ce que c'est que ça. Et puis ils font, je ne sais pas, 5-6 concerts. Et à la fin de la tournée, qui est la seule véritable tournée qu'ils aient jamais faite, Johnny Rotten se fait virer du groupe. Et il le plante là, sans larron, et il doit se débrouiller pour rentrer tout seul à Londres, alors qu'il est une énorme vedette, il ne connaît personne à San Francisco. Et McLaren les emmène en Amérique du Sud, où, comble du mauvais goût, ils vont voir Ronald Biggs, qui était un personnage scandaleux de l'histoire d'Angleterre. Et là, ça tourne vraiment. C'est comme du lait tourné, quoi. L'histoire tourne mal, ça devient moche, quoi. Ronald Biggs avait été celui qui avait frappé le chauffeur pendant l'attaque du train postal, qui était la plus grande attaque de train de l'histoire d'Angleterre. Le mec était mort. Donc, c'est un criminel caché au Brésil qu'ils vont voir et ils vont lui proposer de faire un disque avec lui, ce qui était vraiment nul, quoi. Et puis ils font ça, et puis après, ça a fait, le scandale retombe. Johnny Rotten dit plein de mal de McLaren dans la presse. Lui-même, il est brisé, parce qu'il y a quand même son pote Sid qui est dans le groupe, qui devient chanteur à sa place. Sid, il est héroïnomane au bout du rouleau. Il va bientôt mourir. Enfin, ça devient sordide, quoi.
Le côté destructeur et autodestructeur des Sex Pistols, il l'avait, Malcolm McLaren ?
Non, Malcolm. Alors d'abord, Malcolm ne prenait aucun stupéfiant, buvait très rarement. Je crois que son stimuli intellectuel, c'était de semer le chaos. Il y avait ça de très très fort. Alors il avait cette fascination pour Debord, qu'il a rencontré d'ailleurs.
Il parlait bien français, Malcolm McLaren.
Oui, très joli français.
Et il vous a raconté la rencontre avec Debord.
Il m'a raconté la rencontre avec Debord. Il m'a raconté deux rencontres. Il m'a raconté une rencontre qui est très très amusante. C'est quand il a approché Stanley Kubrick pour faire un film sur les Sex Pistols. Et puis Kubrick l'a vu dans un pub. Et Kubrick lui a dit, mais film sur les Sex Pistols, je l'ai fait, c'est Orange Mécanique. Donc ça clôt quelque chose. Et l'approche avec Debord, je crois que ça s'est passé du côté de Saint-Sulpice ou dans un café Place Saint-Sulpice. Et je ne suis pas sûr que Debord ait compris l'approche de Malcolm.
Ça s'arrête quand, Andrew Hussey, ce mouvement qui consiste à dire non ?
Je crois que le punk et le Sex Pistols, c'était un effleurissement du romantisme du 19e siècle, du romantisme anglais, du situationnisme à la française, du 20e siècle, du surréalisme, du dada. Et si vous voulez, ça fait partie d'une famille des mouvements. Et le punk, ce n'était pas un cas isolé. Et maintenant que je suis un professeur de l'Université de Londres avec un bon salaire, tout ça, quand même, l'esprit de la révolte est toujours très, très important. Et comment le dire, j'étais en Tunisie la semaine dernière pour parler du printemps arabe et tout ça. Et même maintenant, c'est très, très important pour les jeunes d'avoir cette capacité de dire non pour dire oui, pour détruire, pour créer.
Thank you.
franchement, je n'ai, moi, dans toutes ces discussions avec lui, j'ai rarement entendu parler de situationnisme, comme on voudrait nous le faire croire aujourd'hui.
Oui, ce n'était pas la base théorique du lancement des Sex Pistols.
Non, pas du tout.
Mais bon, alors, il était venu à Paris, il avait
chic,
lu de
après,
bord.
Voilà, ouais. Après, ça faisait chic de dire ça.
Un anglais
que c'était un complot situationniste. Ouais.
Qu'est-ce qu'a fait Malcolm McLaren une fois qu'il s'est séparé des Sex Pistols ?
Mais vous savez, il a continué. Alors, il y a eu quand il est arrivé à Paris, on est en 78, hein, donc c'est vraiment ça a implosé. Moi, j'ai raté une tournée que j'aurais bien aimé voir. C'est la tournée américaine où j'étais invité avec la fameuse séquence de Dallas, de Memphis, où il insulte le King, il insulte Elvis. Donc tout ça, c'est chercher l'attention et tout. Donc Glenn Matlock avait déjà quitté le groupe. Sid avait pris sa place. Donc la position de Johnny, qui était quand même très très against Malcolm. Donc
Johnny Rotten.
Il y avait ces deux clans.
Qui étaient dès le départ
oui, en antagonisme, hein, parce ouais. que je crois que Malcolm comptait superviser tout et diriger tout. Il y avait là la construction de quelque chose qui l'amenait jusqu'à son implosion. Et à Paris, il s'est mis en quête de faire My Way. Hein. My Way, donc avec la vidéo à l'Olympia. Moi, j'ai assisté à quelques enregistrements. Il avait fait appel à un garçon absolument extraordinaire qui s'appelle Simon Jaffes. Simon Jaffes, c'était le fondateur du Penguin Café Orchestra. Et il voulait absolument ce vertige et ce tourbillon de violon qu'il y a au début. Et ça, c'était absolument, absolument extraordinaire.
Je crois qu'il est important de comprendre que les Sex Pistols, Malcolm McLaren, Johnny Rotten ou ce que vous voudrez, ont été des gens qui ont ouvert la porte à un regard sur le monde qui était sans phare et qu'on ne trouvait pas jusque-là vraiment dans le rock. Il y a eu bien sûr des tas d'exceptions, mais là tout à coup l'Angleterre bascule et ils se disent, alors ils parlent d'avortement, ils parlent de violence, ils parlent de choses qui étaient...
Ils disent quoi sur l'avortement ?
Fuck this and fuck that, fucking the fucking little fucking brat. I don't want a baby who looks like that. C'était hyper violent. Bodies, bodies, mommy. Get it down.
Que veut dire Andrew Hussey le slogan No Future?
Ça veut dire No future. Mais c'est beau comme slogan, ça. C'est beau parce que, premièrement, c'est un refus total de l'optimisme échoué des années 60. Et no future aussi, c'est le sentiment des jeunes au chômage qui voyaient no future. Moi, j'étais à Liverpool. Liverpool, il faut pas oublier que pendant les années 70, c'était comme une guerre civile entre le nord et le sud de l'Angleterre. Mais il y avait carrément, pour un jeune comme moi, no future. Mais c'est aussi, qu'est-ce qu'il y a de beauté dans cette phrase? La beauté, c'est que c'est les jeunes eux-mêmes qui disent no future. C'est nous qui avons décidé que nous sommes, pour citer les Sex Pistols, the flowers in the dustbin. Et c'est, si vous voulez, d'assumer la responsabilité de votre volonté. C'est pas seulement le Sex Pistols, mais The Clash. Career opportunities, the ones that never knock. Un refus total des dons faciles et pas fiables de la société. Comme les carrières, comme le boulot, comme l'argent. C'est de dire non. Et de dire non, c'est quelque chose de très positif.
Vous savez, comme tous les enfants de l'après-guerre, Malcolm, il a fait son chemin avec ces époques, mais aussi en amenant une dimension, comment dirais-je, subversive à ces époques, pour se les approprier. Je pense qu'il n'aimait pas particulièrement la dernière partie. non pas parce qu'il n'était pas forcément au cœur dans son travail, mais je crois qu'il écrivait ses mémoires, il travaillait avec sa fiancée Yann sur des projets d'édition, il y avait aussi, il était devenu artiste, il avait exposé à Bâle, et là j'ai commencé Hunger is an Energy de Johnny.
Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il
dit
beaucoup de mal.
Il en dit beaucoup de mal, ouais. Mais on sent que derrière, il y a beaucoup de tendresse. Il en dit beaucoup de mal, bien sûr. Mais moi, j'ai entendu sur mon ami Malcolm les pires choses. J'ai entendu des choses qui étaient de l'ordre de l'insaisissable, parce que Malcolm était insaisissable.
Mais vous les avez vus ensemble, par exemple.
Oui, je les ai vus ensemble.
Et ils se parlaient.
C'était difficile. Lydon et Malcolm. C'était difficile parce que Malcolm avait cette dimension de stratégique aussi, de manipuler, de construire, que les choses soient comme il les avait, à mon avis, préméditées.
C'est le manager, c'est le ultimate manager. Enfin, je pense, vous avez le vieil homme qui connaît le business comme sa poche, c'est le colonel Parker, quoi, qui a quand même 20 ans de plus que son artiste. Vous avez le gros mafieux, Frank DiLeo, manager de Michael Jackson. Et vous avez...
Brian Epstein, vous diriez quoi?
Vous avez Brian Epstein, qui est le manager homosexuel anglais, qui couche avec tout ce qu'il peut, tous les garçons qu'il peut. Ça, c'est le prototype de manager qui a été... Il y en a eu des dizaines derrière. Et Malcolm McLaren, justement, voulait un petit peu échapper à ça. Il y a Peter Grant, le manager de Led Zeppelin, pour qui Malcolm avait une admiration totale, parce que Peter Grant, il était colossal. Et ça, c'est un truc qui manquait à Malcolm. Malcolm était fondamentalement lâche, il n'aimait pas la bagarre, et il était plongé dans ce monde du punk où ça devenait physique très vite. Et lui, il n'avait pas du tout envie de se bastonner, comme on dit. C'était pas du tout le truc. Alors que le manager de Led Zeppelin, moi je me souviens d'une scène racontée par plein de gens où un jour un promoteur a sorti un revolver et le mec était tellement énorme, il lui dit « Mais vas-y mon pote, tire une balle, vas-y, éclate-toi, mais tu vas voir ce que je vais te mettre après. » Et le type a baissé son revolver, pardon, etc. Parce que c'était un colosse, c'était une espèce de montagne. Et Malcolm McLaren a entrepris toute une manœuvre de séduction de ce Peter Grant en lui disant « Laissez-moi faire un film sur Led Zeppelin, puisque vous laissez-moi raconter ce que vous avez fait. » Il l'a encouragé à écrire ses mémoires, il l'a encouragé, enfin voilà. Il a été un de ces grands visiteurs dans les derniers jours de Peter Grant, alors que les Led Zeppelin étaient partis vers autre chose, ne voulaient plus en entendre parler, etc. Mais il n'a pas réussi à monter le film. Ouais, parce que voilà, avec Malcolm, il y a eu autant de projets qu'on connaît que de projets qui sont restés lettres mortes. Quoi. Il y a des projets de films, des projets... Il avait 10 projets en permanence. Il y avait ce qu'il appelait ses fers au feu. Et des fois, il en remettait un sur le back burner. Tu disais que c'était les deux trucs derrière, mais devant, il avait le gaz à fond. Il avait un film par-ci, un disque par-là, un livre, un truc. Je pense que s'il était encore des notes, il écrirait ses mémoires, bien sûr. Voilà. Bon, c'était un personnage d'anglais total. L'anglais total, voilà. L'aventurier anglais total.
Qu'est-ce qu'il avait de très anglais, Jean-Charles de Castelbajac? Peut-être rien, mais...
Vous savez, il avait de très anglais qu'il avait déjà... On allait souvent dans son club du côté de Charlotte Street, hein, donc il avait tout ce côté gentleman. Il avait de très anglais qu'il avait sa fidélité à son tailleur ensuite. Hein, il avait ce côté de respecter certaines règles qui n'appartiennent qu'aux Anglais. Il avait un humour dévastateur, hein, il pouvait vraiment tuer quelqu'un en une phrase. Donc, il avait d'anglais une espèce de préciosité qui était presque féminine. C'est-à-dire une espèce de... Il me disait toujours, vous voyez, moi, je continuais la mode, par exemple. Donc, je continuais la mode. Mais, why do you continue anything like that? This is finished. This time is over. Et il me disait toujours... il avait une grande appréhension de ce siècle, le 21e siècle. Hein. Il disait toujours que ce siècle n'était pas bien parce que c'était en fait un combat éternel entre l'authenticité et le karaoké. Hein. Donc il avait cette obsession de se dire qu'en fait, tout ce qui était Internet, tout ça et tout, qu'il a toujours mis à part et refusé. Même son site Internet n'a jamais vu le jour, ou sa page Wikipédia est d'une pauvreté voulue. Hein.
dans les années 80, Philippe Manœuvre, quelles intuitions a Malcolm McLaren? Est-ce qu'elles sont encore géniales?
Le hip-hop, il retourne à New York et là, il leur fait Buffalo Dance. Paf, numéro 1, avec des gamines qui... Il remarque des gamines qui dansent dans la rue avec des cordes. Et il se dit, ah oui, tiens, c'est intéressant. Et il enregistre le disque, Buffalo Dance. Pff, et ça marche, c'est numéro 1. Nous, dans notre métier, vous savez, il y a... Il n'y a pas beaucoup de signes que ça a marché. Si vous avez fait numéro 1, c'en est un. Malcolm a réussi le coup. Il revient en Angleterre, il fait Bow Wow Wow. Alors Bow Wow Wow, plus personne ne s'en souvient maintenant, mais c'était un groupe de filles avec une fille qui s'appelait Annabelle You Win et qui était une espèce de petite furie. Et il avait bien
13 ans, je crois. Elle avait
voilà.
Très,
et là, c'est une autre intuition. Il se dit, on va prendre des rythmes des tambours du Burundi. Mélanger ça un peu de hip-hop, enfin il invente le trip-hop anglais quoi, il prend un peu de trucs d'Afrique, un peu, voilà, il fait, bon, il traficote avec des choses déjà connues, mais franchement ça fonctionne, ça marche bien. Et après il y aura le semi-échec de l'album Paris, où là, bon, c'était peut-être le but, c'est peut-être un peu voyant, il s'est peut-être un peu vu vite comme le remplaçant de Gainsbourg. Serge Gainsbourg venait de disparaître en 91. En 94, il arrive avec son album Paris. Où, voilà, il y a une idée, il se dit, je vais faire Serge Gainsbourg à la place de Serge Gainsbourg. Il a des...
En chantant avec des stars.
Voilà, enfin, il fait venir Catherine Deneuve. Enfin, voilà, il fait un album gainsbourgeois, comme aurait pu lui produire Gainsbourg si Gainsbourg avait travaillé pour des hommes. Et Gainsbourg n'était déjà plus là. Et donc, mais là, ça devient un peu... Là, il va se faire, en fait... L'album sera détruit par Nick Kent, le fameux critique rock qu'il a fait tabasser par Sid Vicious et Jah Wobble. C'est Nick Kent qui est le critique de Libération qui va dire « Ouais, mais non, ça passe pas ». Et là, le disque va s'arrêter quasiment d'une balle dans la tête. Comme quoi, sur un plan karmique, il a eu le retour de la monnaie de sa pièce.
Paris avait vraiment cette fascination sur lui, il a cette main parisienne, il avait compris que la main parisienne c'était le savoir-faire, c'était le luxe, c'était l'écriture, c'était l'intelligence, c'était étonnamment une dimension platonicienne, l'homme est intelligent parce qu'il a une main, et je crois que la cristallisation de son talent, c'est vraiment cet album sur Paris. C'est le plus bel album qui ait jamais été écrit sur Paris. Paris sur la scène, il y a des mélodies extraordinaires, avec des déconvenues, par exemple la déconvenue de Gréco, parce qu'il voulait vraiment faire cette chanson sur Gréco, sur sa relation avec Miles Davis, elle a refusé de chanter.
C'était quoi sa géographie parisienne, lui ? C'était le Paris des surréalistes.
C'était l'endroit où on est aujourd'hui.
Dans le 6e arrondissement, Saint-Germain-des-Prés.
Il y avait des bases, le 6e, le Café de Flore... Le Paris, les Parnassiens, on allait au Select, je sais pas, les cimetières, Picpus notamment, qui est le lieu où Sade s'est planqué durant la Révolution. Enfin, moi, ça, je lui ai montré cet autre Paris, le chemin depuis la Conciergerie jusqu'à la place de la Concorde où la guillotine était présente. C'était toujours un Paris un peu de Ghostbuster. Hein. On était un peu chasseurs de fantômes.
Il était à Londres dans le sens qu'il adorait la psychogéographie de Londres. Là, j'ai utilisé un mot très situationniste. Mais pas le Londres touristique, mais le Londres plein de fantômes du XVIIIe siècle. Le Londres des révoltes du XVIIIe siècle. King Mob, il adorait. Et même sa manière de parler, c'est un accent qui n'existe plus. C'est comme si on entendait le Parigot du XVIIIe, du XIXe siècle. Et ça, c'est quelque chose qui était dans son cœur, je crois. Et quand je pense à Malcolm McLaren maintenant, je vois aussi la manipulateur, le Sex Pistols, mais d'une certaine manière, je vois une espèce de poète. Et sa poésie, c'était de chanter les rues de Londres avec tout le côté négatif, tout le côté anarchiste, tout le côté petit gamin de la rue qui fait partie de la culture londonienne même toujours.
Il avait aussi cette extraordinaire démarche politique quand il a voulu être maire de Londres. Tout son programme était extraordinaire.
Il y a eu la campagne
d'affichage. Son programme était magnifique. Il y avait les dix règles pour devenir le maire de Londres. Par exemple, c'était de planter des arbres fruitiers dans tous les parcs. Hein, qu'on puisse boire une bière dans toutes les bibliothèques londoniennes. Donc, il y avait, et à la fois, ça tenait de la logique et de la provocation.
Mais il y croyait ?
Et bien sûr. Et son univers est comme le mien, totalement implosé, protéiforme, et à la fois avec une vraie grande cohérence. This is not a love song. 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 La dernière grande conversation qu'on a eue avec Malcolm, c'était sur la mort, en fait. C'était sur les devises qui seraient gravées sur nos tombes. Hein. Alors, je lui ai dit, écoute, Malcolm, toi, tu as le choix. T'as vraiment... Il y a un panel extraordinaire. Il y a No Future, il y a Two Boredom, enfin, il y a... Et en fait, c'était pas du tout dans sa filiation. Il avait pensé, il voulait être enterré près du mur d'Adrien. Vous voyez, donc, ce retour à cette dimension, ses origines de l'Écosse. Voilà. Et moi, j'avais trouvé ce jour-là un passé spiritueux et un futur spirituel. You need hands to hold. Someone you care for. You need hands to show that you're sincere. When you feel nobody wants to know you, you need hands to brush away the tears.
Merci à Jean-Charles de Castelbajac, Philippe Manœuvre, Bruno Blum, Andrew Hussey et Kent. Les textes étaient extraits de La rage et mon énergie de John Lydon, dit Johnny Rotten, édité au Seuil, et de Lipstick Traces de Graine Marcus, édité chez Alia et en folio Gallimard. Lecture Paul Bendy, Archivina Hervé Evano, prise de son Eric Audra, mixage Pascal Bénard, Malcolm McLaren, un documentaire de Virginie Bloclinet et Lionel Quentin.